Je vais vous présenter les résultats d'une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs, sur notamment quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'était de savoir ou de mieux connaître les pratiques sociales ou la demande sociale de nature en ville. Est-ce que finalement il y a une demande? Est-ce que dans l'ensemble, les citadins veulent de la nature ou pas? Quelle forme de nature? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Sachant que auparavant, je suis biologiste de formation et j'ai travaillé j'appartiens au ministère de l'écologie et du développement durable, donc fonctionnaire d'État, et j'ai travaillé pas mal de temps en DIREN, donc la direction régionale de l'environnement, notamment sur les parcs nationaux. Hein, j'étais chargé d'espaces protégés, donc dans la région Rhône-Alpes, m'occuper de la Vanoise, des écrins, enfin des choses qui font rêver. Et puis j'avais été très surpris dans des enquêtes qu'on a faites dans les années 80 que finalement la demande de parcs nationaux était très liée, ou dans les attentes, finalement les gens venaient dans les parcs nationaux comme ils venaient dans des parcs urbains. Et du coup je me suis beaucoup interrogé, donc j'ai voulu creuser un peu cette question. Qu'est-ce que veulent ces citadins qui pratiquent la nature? Tout d'abord je vais vous parler de la méthode d'enquête, donc... Il y a plusieurs méthodes donc, pour approcher cette demande. Et puis ensuite, je vous parlais, puisqu'on a fait donc, une demande notamment sur les squares proximité, donc des petits espaces verts dans des tissus urbains denses. Ensuite, un travail sur les parcs urbains et périurbains. Et puis, je me suis aussi beaucoup interrogé, est-ce qu'il y avait une pratique sociale, notamment par rapport à des espaces naturels et agricoles périphériques, qu'est-ce qui se passait dans ces espaces? Alors, sur la méthode d'enquête, donc l'idée c'était donc une enquête que nous avons faite sur l'agglomération lyonnaise. Donc l'agglomération lyonnaise, c'est 58 communes qui appartiennent à la communauté urbaine de Lyon. Et l'idée c'était donc d'obtenir en fait une photographie de la fréquentation des espaces verts ouverts au public. Donc ce sont des espaces verts plutôt gérés notamment par les services des parcs et jardins. Et l'idée c'était d'avoir un gradient de l'ensemble des pratiques des citadins sur une grosse agglomération française. L'idée c'était de connaître les pratiques, les usages, les attentes par rapport donc à cette enquête, d'évaluer la demande sociale. Alors dans cette évaluation de la demande sociale, ce qui nous paraissait très intéressant, c'était de savoir est-ce qu'il y avait une non-clientèle, est-ce que finalement dans les villes on rencontre des habitants qui ne fréquentent pas les parcs, les jardins, les squares, qui ne vont jamais dans la nature, qui ne sont pas du tout intéressés par cette problématique, parce que la plupart du temps, les enquêtes que nous avons, notamment à l'échelle de la France, et je pense notamment sur la région Île-de-France ou Paris, c'est souvent des enquêtes qui sont faites en situation, c'est-à-dire à l'entrée des parcs et des jardins. Donc ce qu'il faut, c'est un petit peu, et on n'a pas, notamment, on ne capte pas par ce type d'enquête la non-clientèle. La méthode d'enquête, alors on a réuni un petit groupe de travail, donc notamment avec les directeurs des services des espaces verts de la ville de Lyon, les directeurs de parcs, de jardins, des gens qui travaillent à la communauté urbaine de Lyon, de l'agence d'urbanisme, quelqu'un du ministère, et on a développé donc un questionnaire, sachant qu'on a travaillé sur une enquête téléphonique, donc on a fait un questionnaire qui était un peu lourd, 34 questions, puisqu'on demandait systématiquement une pratique des squares, des parcs, ou éventuellement des espaces naturels, agricoles et périurbains. Et l'enquête, à peu près, pour répondre à ces 34 questions, au téléphone, c'est à peu près 20 minutes. 20 minutes, c'est long, c'est pas facile à obtenir des résultats. Hein. Cette enquête téléphonique, alors, elle est un petit peu datée. On l'a réalisée entre janvier et mars 2002. C'est assez important parce qu'elle a peut-être biaisé un petit peu. C'était notamment pendant la campagne électorale de Jacques Chirac, sa présidence. Et je pense que les thèmes d'insécurité avaient été très fortement développés et ça se traduit un petit peu dans l'enquête. On a des résultats qui sont peut-être faussés ou biaisés par rapport donc à cette enquête téléphonique qu'on a fait pendant cette enquête, cette campagne électorale. Alors, l'idée, c'était d'avoir une représentation équilibrée, c'est-à-dire que nous avons interrogé des personnes qui vivent dans les 55 communes du Grand Lyon. Et l'idée, c'était d'avoir une représentation équilibrée, c'est-à-dire qui corresponde au poids démographique de la population, c'est-à-dire que les habitants de Lyon, Lyon fait 500 000 habitants, donc on a interrogé plus de Lyonnais, par exemple, que de personnes qui vivent dans la communauté urbaine de Lyon, qui sont dans une ville de 300 ou 400 habitants, une petite. Donc on l'a fait de manière proportionnelle par rapport au poids du recensement démographique de 99. On a eu un taux de réponse, donc il a fallu, pour avoir 305 personnes, qui correspond à un échantillonnage dit représentatif pour les personnes qui font ce type d'enquête, des sondages, il a fallu passer à peu près 1844 appels. Hein, on a beaucoup de taux de refus. Les gens ne veulent pas du tout répondre au téléphone. Nous avons embauché une personne qui, pendant 3 mois, a passé beaucoup de coups de fil, donc en tirage au sort aléatoire sur notamment le bottin. Et petit à petit, on a testé donc cette enquête et à peu près donc 17% de réponses. Une petite présentation, parce que je vais vous parler donc d'espace autour de l'agglomération lyonnaise et de ses pratiques citadines. Alors Lyon, ici le centre-ville de Lyon, donc c'est 500 000 habitants, c'est plutôt une ville dense, hein, avec assez peu de parcs. Donc vous avez ici le premier parc qui a été construit par les frères Eugène et Étienne Buller, qui sont deux paysagistes suisses, donc dans les années 1856. Donc c'est un parc de type haussmannien. C'est le premier parc de Lyon, ça s'appelle le parc de la Tête d'Or. Et puis ensuite, vous avez quelques autres parcs qui ont été construits dans les années 2000 par le paysagiste Courageau, donc le parc de Gerland, avec quelques parcs périphériques, avec ici un grand parc qui est très important, donc à l'est lyonnais, qui s'appelle le grand parc de Miribel-Jonage, donc qui a été décidé dans les années 68 et qui fait 2200 hectares donc aux portes de Lyon, avec notamment un plan d'eau, donc qui est une gravière dans laquelle on extrait des granulats pour notamment faire du béton. Et ce parc donc reçoit à peu près 4,5 millions de visiteurs par an, donc c'est vous dire l'importance des espaces. Et puis quand on a posé la question par rapport aux espaces naturels et agricole de la périphérie de Lyon, donc spontanément, les gens nous ont cité éventuellement les monts d'Or, les coteaux des monts du Lyonnais, etc. Donc on a un certain nombre de zones qui sont identifiées. Ces ensembles de parcs ouverts au public représentent à peu près 3000 hectares, hein, et Lyon fait partie de ces villes qui sont assez bien dotées en espaces verts, puisque une circulaire des années 73 prévoit que en espace dense en cœur de ville, il faut à peu près 10 mètres carrés par habitant, et dans les espaces verts extérieurs, donc en périurbain, à peu près de l'ordre de 25 mètres carrés. On est supérieur à 25 mètres carrés, donc dans les espaces périphériques à l'agglomération lyonnaise. Alors les principaux résultats, un premier espace qui est relativement bien pratiqué, notamment c'est ce qu'on appelle les squares, donc c'est des espaces verts intérieurs privés parfois. Ici, c'est un jardin qui se trouve dans le centre de Lyon. Relativement bien fréquenté. Alors, ce qui est important de noter, c'est que cette pratique de square, elle est assez importante, puisque 53% des personnes que nous avons interrogées déclarent fréquenter les squares du Grand Lyon. Alors, cette enquête, je la mettrai en parallèle ou avec d'autres références que j'ai pu récupérer en France, notamment par rapport à des villes, disons, de taille comparable, sachant que cette pratique citadine que je vais vous raconter plutôt dans des villes millionnaires, c'est-à-dire des villes supérieures à 1 million d'habitants, et je pense que ces pratiques sont peut-être pas équivalentes sur la ville de Caen ou des petites villes de taille plus petite. La fréquence est d'une à deux fois par mois, c'est la plus citée, c'est-à-dire que les personnes qui pratiquent les squares, ils vont en moyenne entre deux fois par mois. Un point aussi qui est extrêmement important, qui m'a beaucoup interrogé, c'est-à-dire que lorsqu'on demande quel est le temps de trajet entre votre habitat, domicile, pour aller dans le square, les personnes nous disent que, en fait, le budget temps de déplacement domicile-square est de l'ordre de 10 minutes. Et cette référence est tout à fait importante, puisque dans les enquêtes qui ont pu être faites, notamment en Île-de-France, et je pense par le laboratoire d'économétrie de l'École polytechnique dans les années 80, finalement, ce budget temps entre le 80 et 2002 n'a absolument pas varié, c'est-à-dire qu'on a un invariant en temps de déplacement pour aller dans un square qui est de l'ordre de 10 minutes. Au-delà, on y va nettement moins. Alors, là aussi, ça m'a surpris quand on demande finalement pourquoi vous allez dans un square. Eh bien, le square est fondamentalement, pour 40% des habitants, un lieu de promenade et de détente. C'est-à-dire qu'on va au square pour notamment avoir un itinéraire de promenade. Alors, on revient là peut-être dans l'exposé de ma collègue tout à l'heure sur les cités-jardins. L'histoire du trajet, effectivement, extrêmement important. Tellement important que lorsqu'on laisse parler les habitants, notamment dans cette enquête téléphonique, les habitants nous disent que finalement, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir sortir de leur domicile, par exemple, et pour eux, c'est déjà le fait de se promener le long d'un itinéraire ou d'une rue, pour eux, c'est déjà un exercice de promenade et de détente pour aller au square. Donc ça pose en fait un problème d'aménagement de ces voies de desserte, notamment pour aller dans ces espaces de détente. 35% déclarent rester de l'ordre de 30 minutes à 1 heure dans un square, moyenne. Un square aussi, par les recoupements qu'on a pu faire, en gros, on a à peu près, dans une année, à peu près 68 sorties annuelles dans un square, donc des équipements relativement bien pratiqués. Alors le budget temps de déplacement, là j'ai repris une étude qui a été faite notamment sur le parc de la Tête d'Or par deux chercheurs qui ont regardé quel était le budget temps de déplacement, donc sur une enquête au générateur, c'est-à-dire à l'entrée ou à la sortie d'un parc. Alors c'est un parc qui est situé dans un habitat dense, dans le 6e arrondissement, donc entre Villeurbanne et Lyon. Donc une enquête qui a été faite dans les années 2000, et là on a quelque chose de tout à fait important, on a une courbe type de Gauss, c'est-à-dire que la plupart des habitants qui viennent dans ce parc, donc qui fait 105 hectares, ne mettent pas plus ou ne veulent pas mettre plus de 6 à 15 minutes, c'est-à-dire qu'on capte à peu près 50% de la clientèle qui vient dans ce parc, vivent en fait à proximité à 500 mètres, à 500 mètres de cet espace. Et puis au fur et à mesure, on a donc une courbe qui s'estompe avec très peu de personnes, donc en pourcentage, qui mettent plus de 2 heures. Ici, une enquête qui a été faite notamment par Robert Ballion et Alain Grandjean donc, en 82, et qui montre sur une trentaine de squares ou de parcs publics dans la région Île-de-France que la plupart des personnes entre 200 et 500 mètres, on capte à peu près 98%, c'est-à-dire qu'on vient essentiellement dans un square ou dans un parc, si possible à pied. Au-delà de ces 500 mètres, donc on a une élasticité qui est beaucoup plus faible, et petit à petit, lorsque ce budget de temps de déplacement de 10 minutes est beaucoup trop important, à ce moment-là, donc on a petit à petit, on capte moins de population. Alors, ce budget de temps de déplacement, il est extrêmement important, notamment pour les services techniques, parce qu'il permet, notamment dans une ville, de mesurer, en fait, par rapport à la taille des logements de proximité, quels sont les quartiers déficitaires en espace vert. Et on souhaiterait, d'ailleurs, en faire, notamment par rapport à des travaux qui sont conduits actuellement par l'agence régionale de l'Île-de-France, de voir si on ne peut pas utiliser ce budget temps de déplacement des minutes pour notamment en faire un critère d'accessibilité et vérifier dans les quartiers pauvres en espace vert et pouvoir augmenter donc la fréquence des parcs dans ces quartiers difficiles. Ici, donc une enquête que nous avons faite donc pour vous montrer comment fonctionne un square. Ici, c'est un square qui se trouve à Lyon. Donc, on avait demandé recruter une étudiante, lui demander si elle pouvait passer quelques temps dans un square. On lui a demandé d'être présente à l'intérieur d'un square, un petit square de Lyon, sur une enquête. Et puis, on lui a demandé si elle ne pouvait pas rester de 7h jusqu'à 18h. Donc, toute la semaine, elle a compté toute la semaine les personnes qui entrent et qui sortent dans un square. Et puis vérifier comment ça fonctionne en tranche horaire, vérifier aussi ce que faisait, donc en observation, sans enquête, hein, donc elle est restée pendant une quinzaine de jours dans plusieurs squares, et puis elle a regardé comment ça fonctionnait. On a sorti une étude d'ailleurs qui est publiée. Alors ce qui est important de noter, c'est que là, sur un petit square donc, de quelques mètres carrés, donc à peu près 340 personnes à la journée, on a donc un profil horaire le matin, donc un square, il démarre vers 9-10 heures. On a plutôt les promenades de chiens, hein, donc les personnes qui viennent avec leurs chiens. Après, parfois aussi un petit peu de joggeurs. Donc, ensuite, vers 10 heures, 11 heures, en général, c'est plutôt la personne âgée qui est avec son journal, hein, qui va rester quelques temps, qui va lire son journal sur un banc. Ensuite, vers 11 heures, 12 heures, on a un petit trou, un peu moins de monde. Vers 12-13 heures, une population plus importante, donc on vient pique-niquer, on vient éventuellement lire, on profite en fait de la pause pour, surtout s'il y a des bureaux à proximité, donc pour rester quelque temps. Je rappelle que ici c'est au mois de mai, donc c'était par une belle journée. Ensuite, vers 14 heures, c'est plutôt étal. Et puis alors ici, on a un gros rush vers 16-17 heures, c'est la sortie des écoles primaires, donc on a beaucoup de mères de famille avec poussettes, des nourrices, etc. Et on a donc une fréquentation extrêmement importante. Donc on a eu vers 16 à 18 heures donc deux pics, puisqu'on a à peu près 35% des personnes qui viennent dans un square. Et puis ensuite, une retombée douce. Ici, donc, c'est un profil horaire des usagers d'un square, ce qui nous a aussi beaucoup étonnés, puisqu'on avait demandé, je lui ai demandé aussi qu'elle reste le samedi et dimanche. Alors, le samedi et dimanche, sur un certain nombre de squares, absolument personne. Hein. Donc, une pratique très faible. Donc, les squares, c'est plutôt une pratique de jour travaillé, hein, du lundi au vendredi, avec une fréquentation importante, notamment après-midi, avec parfois aussi des choses assez étonnantes, une pratique très féminine. Hein. Les squares, c'est aussi une pratique très féminine, notamment quand on fait des comptages hommes-femmes, on constate que les hommes vont très peu dans les squares. Une pratique très féminine des squares, y compris d'ailleurs quelques études j'ai pu récupérer, notamment sur Paris, donc quelque chose d'assez fréquent au milieu urbain. Ensuite, je vous parlais d'autres, des parcs, donc les squares, donc une pratique 56%. Donc les parcs, ici, un parc était ouvert en 2008, s'appelle le parc des Berges du Rhône. Donc c'est un espace qui a été récupéré donc, par la ville de Lyon. Ici, donc c'est le Rhône, hein, qui a été récupéré. Avant, c'était, bon, j'ai pas amené de photos, mais un parking, en fait, un parking avec plein de voitures. Et là, donc, la ville a souhaité aménager ce parc, donc en bordure du Rhône, qui fait office de lien entre le parc que je vous ai montré au nord, qui s'appelle le parc de la Tête d'Or, et au sud, le parc de Miribel-Jonage. Donc, on a une promenade de l'ordre de 5 km. Hein. Vous voyez, donc là, c'était pris, je crois, un samedi. J'ai pris ça un samedi d'un pont. Donc, une fréquentation extrêmement importante et un parc qui marche très bien. Alors, les parcs, 56% pour les squares. Les parcs, on a 86% des personnes qui disent finalement fréquenter les parcs du Grand Lyon. Alors, on a voulu croiser, en fait, parce que lorsqu'on a une enquête téléphonique, parfois, on a des biais ou des non-réponses ou des réponses qui peuvent être délicates à interpréter. On a essayé systématiquement de croiser ces données par rapport à des enquêtes qui ont été faites notamment par les services techniques de la ville de Lyon. Et en fait, cette pratique est effectivement importante. En région, à Paris, on a à peu près le même taux équivalent, c'est-à-dire on a une forte fréquentation des parcs par les Parisiens, notamment qui vivent intramuros. Par contre, on a une influence record en fin de semaine, c'est-à-dire qu'un parc, il fonctionne en semaine comme un square. Et lorsqu'un parc il a notamment un certain nombre d'attraits paysagers ou autres, on a une affluence record, c'est-à-dire que la fréquentation des parcs est essentiellement le samedi et le dimanche, hein, puisqu'on a à peu près 68% des personnes interrogées qui nous disent fréquenter les parcs le samedi. On a une fréquentation, là aussi, quand on leur pose des questions et qu'on regarde, une fréquentation qui est extrêmement soumise aux variations saisonnières, c'est-à-dire qu'on a une pratique très forte en été et au printemps, assez faible en hiver et en automne, avec deux pics, là aussi, qu'on a observés, y compris dans d'autres, je pense notamment en forêt de Bondy, on a fait des enquêtes aussi, avec parfois deux pics en M, c'est-à-dire que les jours les plus chargés, c'est notamment un beau dimanche du mois de juin, et puis un beau dimanche de septembre. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux tendances très fortes, avec parfois, par exemple sur le parc de la Tête d'Or, de l'ordre de 30 000 visiteurs un dimanche, par exemple, ou sur le parc de Miribel-Jonage, qui fait 2 200 hectares, on a jusqu'à 40 000 visiteurs un beau dimanche, donc avec des pics extrêmement, extrêmement importants. Là aussi, c'est un espace voué à la promenade. Quand on interroge les personnes qui vont dans les parcs, essentiellement, bon, il y a d'autres motifs, mais c'est quand même, je vous ai mis que les motifs les plus importants, après on pourra éventuellement les détailler, c'est surtout un espace qui est voué à la promenade. Le temps de présence est de l'ordre de 1 à 2 heures de temps de présence, c'est-à-dire qu'on y va le dimanche, par exemple, après la sieste des enfants, donc vers 13h30, et c'est là où on a le maximum, et la plupart des visiteurs qui viennent dans un parc restent à peu près donc 2 heures en moyenne. Le temps de déplacement, là aussi, est très, très important. Le budget de temps de déplacement, donc, c'est pas plus de 30 minutes, y compris en voiture ou en transport en commun. C'est-à-dire qu'au-delà de ce temps, se posent des problèmes, on a une fréquentation qui diminue. Donc là, on capte à peu près donc, des habitants qui viennent de transport en commun ou à pied ou éventuellement donc, en voiture. Pas plus de 30 minutes. Et puis, dans un parc, on y va un petit peu moins fréquemment que dans un square, hein, par rapport donc, aux attentes, à peu près 17 sorties annuelles dans un parc urbain. Alors ici, je vous présentais, j'ai mélangé un certain nombre d'études, je pensais que ça pouvait être intéressant, notamment donc, une étude qui a été faite par une agence, agence Nova, qui a l'école l'école de management de Lyon, qui a travaillé pour le comte du Grand Lyon sur un parc qui va être créé donc en 2012, le parc Blandan. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est un parc qui n'existe pas, c'est une ancienne caserne dans le 7e, et la ville de Lyon a l'intention d'en faire un parc urbain. Donc la décision politique est prise, ça fait partie du plan de mandat de Gérard Collomb. Cette agence a interrogé des riverains qui vivent autour de cet espace pour leur demander, notamment vis-à-vis du cahier des charges qu'on va demander aux paysagistes, qu'est-ce que vous voudriez, notamment dans ce parc. Alors, on les a interrogés vis-à-vis notamment du style paysager, qu'est-ce qu'ils veulent comme style, un jardin à la française, un jardin à l'anglaise, quelque chose d'autre. On sait notamment dans les enquêtes qu'on vient dans les parcs pour se promener, donc quel type de cheminement ils veulent, quelles activités pratiquer dans ce parc, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire des aires de jeu, des manèges, mettre des restaurants, enfin un certain nombre de questions se posent. Et puis là aussi, ça nous intéressait par rapport donc aux autres usagers, comment les publics qui viennent ou qui fréquentent un parc interréagissent les uns avec les autres. On a constaté qu'un certain nombre de personnes venaient dans les parcs, notamment pour y rencontrer ou voir du monde. Donc il y avait une attirance assez forte, notamment par rapport à ces pratiques. Alors les attentes et les usages, donc ici ça a été fait, donc on a interrogé donc une soixantaine de personnes. Donc ça a été fait pour un parc qui n'existe pas, donc c'est un parc virtuel, c'est un projet. On a classé donc ces 60 personnes en jeunes et adolescents, en sportif, en senior, en famille, parce qu'on constate que finalement, lorsqu'on prend un public de citadins large, finalement les attentes ou les pratiques sont relativement différentes suivant ce type d'approche. Alors vis-à-vis du style paysager, on s'est posé la question finalement, est-ce que vous aimez mieux un parc naturel, c'est-à-dire libre, donc quelque chose d'assez foisonnant, un espace de nature champêtre avec des arbres hauts, des pelouses non tendu, par exemple, ou est-ce que vous souhaitez quelque chose de plutôt contrasté, de formel? Et donc, après une analyse de correspondance, notamment par rapport à l'ensemble des questions et des entretiens, donc il y a eu un petit travail donc de segmentation des publics. Alors, ce qui est important de noter, c'est que, les couleurs correspondent aux seniors et autres. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais vous avez quand même des publics assez différents, c'est-à-dire que vous avez des publics qui demandent plutôt un espace naturel et puis d'autres qui demandent plutôt un espace formel. Alors, par exemple, dans les espaces naturels, les gens veulent pas, dans ce parc Blandan, veulent pas de goudron, pas de bâtiment. Il existe des bâtiments, c'est une ancienne caserne, donc ça va se poser peut-être des problèmes si on répond peut-être de les détruire. Il y a des questions qui se posent. Les gens veulent aller dans le parc ici pour entendre des oiseaux, ils veulent que ça fasse campagne, ils veulent qu'on ne voit pas la main de l'homme, et puis d'autres qui veulent, par exemple, ils veulent un zoo, par exemple, des cerfs, ils aimeraient bien une roseraie, etc. Vous voyez donc les contrastes et les différences ici par rapport naturel. Parc paysager modèle, alors là aussi c'est quelque chose qui nous a interrogé, c'est-à-dire qu'on a constaté que dans les villes, alors je ne sais pas sur quand, c'est qu'en général le parc le plus âgé, celui qui a été fait, est souvent un marqueur, c'est-à-dire qu'il a le rôle d'espace témoin ou de marqueur, et que lorsqu'on interroge donc la soixantaine de personnes, là par exemple en l'occurrence à Lyon c'est le parc La Tête d'Or qui est marqueur, c'est-à-dire que le style paysager, l'aménagement fait référence et systématiquement quand on interroge une population de toute origine, nous ressortent un certain nombre d'éléments paysagers ou d'éléments appartenant à ce parc. Alors, par exemple, ici, sur le parc ou le style paysager modèle, est-ce que vous souhaitez plutôt un parc ouvert avec des grandes pelouses dégagées, par exemple, ou quelque chose d'espace clos avec éventuellement plus forestier? Donc, vous voyez, là aussi, on a... Donc, c'est des mots bruts qui reviennent du questionnaire et puis qui ont été travaillés en fonction, je ne vais pas trop rentrer. Donc, il y en a qui veulent, par exemple, un espace clos pour avoir un espace de fraîcheur, et puis d'autres, ils veulent plutôt pouvoir voir le ciel et pas donc. Vous voyez la difficulté qu'on a, par exemple, à préciser les attentes. Bon, vis-à-vis des ambiances, alors, est-ce que par rapport, si on fait ce parc de Blandan, est-ce que vous aimeriez des massifs de fleurs? Donc, on a plutôt une tradition, et puis d'autres, Est-ce qu'éventuellement on pourrait mettre à l'intérieur de ce parc des œuvres, par exemple, des statues? Est-ce qu'on peut avoir des choses futuristes ou des expositions? Bon, vous voyez comment, entre le moderne et tradition, bon, voilà, on a toutes sortes de choses. Alors, vis-à-vis des cheminements possibles, là aussi, vis-à-vis des cheminements, ce qui est important de noter, est-ce que vous aimeriez plutôt des cheminements continus ou des discontinuités, c'est-à-dire des ruptures? Bon, là, on a plutôt une tendance à avoir des aménagements ou des trajets en continuité, avec parfois, notamment à l'intérieur, des possibilités d'événements. Donc certains nous disent, j'aimerais bien, dans le parc, qu'on ait des concerts, qu'on puisse pique-niquer, etc. Donc des attentes aussi assez contradictoires. Vis-à-vis des activités pratiquées, certains aimeraient bien qu'il y ait des manèges, par exemple, certains accrobranches, des jeux d'enfants. Beaucoup nous disent, écoutez, nous on va au parc parce qu'il faut absolument épuiser les enfants, il faut qu'ils puissent courir, faire de la gym, donc du coup des parcours sportifs, des choses, des sentiers peut-être avec des buts, des choses comme ça, et puis d'autres veulent pas du tout. Ils vont dans le parc notamment pour une immobilité, c'est-à-dire qu'à la limite pour y faire la sieste, se coucher dans l'herbe. Donc on a là encore des choses très très différentes. Les couleurs correspondent aux catégories, donc famille, senior ou adolescent. Vis-à-vis des relations aux autres, là aussi on avait constaté que finalement dans les parcs, ça aussi j'avais été assez surpris quand on avait fait les enquêtes sur les parcs nationaux. Pour ça je vous ai dit que c'est une pratique plutôt de parc urbain. Finalement, les visiteurs vont dans des espaces protégés pour avoir d'autres personnes ou pouvoir se confronter avec la foule. Hein, ça paraît un peu étrange et finalement, on a constaté que finalement, on va au parc aussi pour rencontrer du monde, pour pouvoir regarder ce qui se passe, pour pouvoir regarder. Donc, il y a des pratiques en groupe, c'est-à-dire que notamment, les adolescents aiment bien y aller en groupe. On a constaté aussi sur certaines enquêtes que finalement en sortie d'école, les lycéens aiment bien y aller en groupe. Donc on a une pratique de parc, notamment en groupe, alors qu'on a parfois aussi une pratique de parc plutôt isolée. Hein. Voilà, donc ensuite, autre question, c'était les espaces naturels et ruraux. Alors là aussi, on a énormément de demandes et d'attentes, c'est-à-dire qu'on constate qu'on a une pratique de square forte, une pratique de parc urbain forte, et une pratique aussi de campagne forte, notamment sur l'agglomération lyonnaise, puisqu'on a à peu près 60% de personnes qui nous disent « moi, je vais régulièrement à la campagne, je pars dans les espaces naturels ». Alors, ils nous ont cité un certain nombre de sites qui sont autour de la région. Donc, on a une attente assez forte avec une pratique régulière, puisqu'on a à peu près 48% qui vont une à deux fois par mois et 18% toutes les semaines qui vont dans les espaces naturels. Avec un budget temps, là, donc tout à l'heure, les squares, c'était 10 minutes, rappelez-vous, un parc urbain, c'est 30 minutes. Là, budget temps déplacement, c'est une heure. Hein. Moyenne, les gens mettent une heure pour aller dans leur chalet d'alpage, ou éventuellement dans une résidence secondaire, etc., donc 40%. Et lorsqu'on fait, j'ai regardé ce qui se passait sur Paris, Paris c'est jusqu'à 3h30, 4h, avec une pratique qui est extrêmement importante. On a à peu près 44, je reviendrai tout à l'heure, à peu près 44 nuitées, c'est-à-dire que les Parisiens fuient ou vont à la campagne, de manière très loin, y compris en avion. Donc avec des pratiques extrêmement fortes, jusqu'à 3h30 à 4h de budget de temps de déplacement pour aller à la campagne. Alors quand on fait ce calcul, on a 48% des partants qui séjournent 2 jours et plus. Alors quand on regarde ça, 2 jours et plus, ça veut dire 2 jours, ça veut dire qu'il y a une nuitée quelque part. Donc un budget en fait, soit une chambre d'hôte, un gîte, un hôtel, éventuellement une résidence secondaire prêtée, etc. Donc 48% sur l'agglomération lyonnaise, 2 jours et plus. Une fréquence qui est étalée sur toute l'année, c'est-à-dire que là, pour les squares, par exemple, on a une pratique très faible en hiver, contrairement à ce qu'on a en fréquentation, on y va pratiquement toute l'année, un peu moins en hiver, un peu moins en automne, mais une fréquentation qui est étalée toute l'année. Et puis quand on interroge pourquoi vous allez, qu'est-ce qui vous attire, pourquoi vous, 3h30, 4h, c'est... Pour beaucoup, c'est l'assurance d'avoir le calme et la verdure. L'idée derrière, c'est ça. Alors, les enseignements à tirer, donc sur les pratiques, Je reviens par rapport à l'enquête. Il y a les gens ou les visiteurs attendent, notamment par rapport à la nature, donc des squares, des parcs ou des espaces naturels et ruraux, un certain nombre d'éléments qui sont des services ou des aménités par rapport à ces espaces, avec notamment quatre choses, notamment le contact à la nature. Alors, les gens nous disent, bah, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir contact avec des éléments naturels qui n'apparaissent comme pas trop transformés. La plupart des visiteurs ne sont pas dupes que les parcs soient aménagés, que sont léchés. Il y a une tradition horticole, champêtre ou ornementale. Et finalement, ce contact à la nature, même s'il est un peu biaisé, la plupart des visiteurs souhaitent qu'il ne soit pas trop transformé. Hein. C'est l'expression qui est souvent développée. Ensuite, il y a une contemplation. Ça aussi, un certain nombre de personnes sont des clients assidus et vont dans les parcs notamment avec l'idée qu'on puisse admirer quelque chose. Donc, ça veut dire que les parcs, il faut qu'ils présentent un certain nombre d'éléments ou des attributs, comme une carrière, un plan d'eau, en gros, qu'ils en mettent plein la vue. C'est-à-dire qu'il y a une demande, une attente d'espace qui soit tout à fait impressionnant, entre guillemets. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de parcs. Alors, par exemple, sur Paris, je pense que les buts de Chaumont jouent bien cet espace témoin fort. Il est très pratiqué, il y a quelques sociologues qui ont travaillé dessus, et je pense que les vues, etc., montrent que finalement, c'est un parc qui marche bien. On veut avoir un cheminement, alors là, le chemin, les visiteurs veulent un chemin à parcourir, c'est-à-dire un chemin qui donne l'impression de faire du chemin, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas la grande ligne droite, hein, donc la grande ligne droite, elle est vraiment bannie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, je reviens sur la cité jardin, c'est le petit itinéraire, la Venelle, le point de vue pittoresque, etc., on le retrouve bien là dans les attentes. Ensuite, il y a aussi une attente très forte, c'est-à-dire qu'on va dans un parc pour avoir de l'activité physique, donc il faut que ça dépense des calories, il faut qu'on brûle nos graisses, il faut absolument qu'il y ait des activités sportives à l'intérieur, hein, extrêmement important. La pratique du jogging est très, très, très importante. Ensuite, les services pratiques. Alors, les services pratiques, il faut une accessibilité. Ça, c'est quelque chose qui est très demandé. C'est-à-dire qu'il faut que l'accès soit aisé en tout temps et dans l'espace. C'est-à-dire pas de chemin avec de la boue, par exemple, pas trop de feuilles mortes, pas d'ornières où on vient dans l'espace ou dans le parc avec des petites chaussures, donc il ne faut pas que je revienne crotté. Voilà. Donc, du coup, ça pose un problème pour les services. C'est ce que j'avais constaté dans les parcs nationaux. Les attentes dans les parcs nationaux, c'est d'avoir des chemins accessibles à pied, balisés, des parkings, etc. Parfois goudronnés, enfin pas trop de cailloux. Il faut qu'on puisse y aller en petites chaussures. Le repérage, là aussi, alors les parcs qui sont sur lesquels il n'y a pas le temps d'accès, alors itinéraire A, itinéraire B, temps d'accès, etc., c'est très demandé, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse se repérer. Donc les grands parcs où il n'y a pas de repère, où on puisse se perdre, sont bannis. Ensuite, il faut qu'on ait un confort, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on ait des commodités. Alors dans ces commodités, par exemple, c'est souvent oublié de l'ensemble des villes. Alors par exemple, ça a été complètement oublié sur le parc des Berges du Rhône. Le confort, c'est d'avoir des toilettes en numéro un. Les toilettes sont demandées, notamment par les femmes. Il faut absolument qu'on puisse avoir des toilettes propres, etc. Donc il y a, je constate, ce matin, je suis allé me promener dans le parc, le Jardin des Plantes, par exemple, à Caen. J'ai vu qu'il n'y avait pas de toilettes. Je pense que c'est quelque chose qui manque. L'équipement. C'est quelque chose qui est demandé. Il faut absolument qu'on ait des toilettes propres. Hein. Le parc des Berges du Rhône, 5 km, la ville a complètement oublié des toilettes. Ça paraît incroyable. Il y a aussi quelque chose qui est très... Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné dans l'enquête. C'est la sécurité. Alors, c'est quelque chose sur lequel... alors, on était en 2002. C'était l'enquête... on était en pleine sécurité, en psychose, etc. Mais c'est quelque chose qui est très prégnant. C'est-à-dire qu'il faut... Ou quand on va dans les parcs ou dans les squares, il faut absolument qu'on ait une confiance, une tranquillité. Et là aussi, par rapport à cette sécurité, dans les enquêtes qu'on a faites sur l'agglomération, on a constaté qu'il pouvait y avoir des parcs avec un marquage social assez fort. C'est-à-dire que lorsque vous avez un parc, notamment dans des quartiers défavorisés, c'est le cas par exemple de Paris, par exemple, qui est en cité HLM à proximité, où j'avais aussi travaillé sur la forêt de Bondy, par exemple, dans le 9-3. Lorsqu'on a des quartiers défavorisés, on a systématiquement, puisqu'on est à 500 mètres, donc des personnes, des quartiers qui viennent, des bars ou des tours, et du coup, on a un marquage social, c'est-à-dire que les espaces sont socialement appropriés par des populations, Et du coup, se posent des problèmes d'insécurité pour d'autres, et on a des problèmes d'exclusion sociale à l'intérieur de ces espaces, juste par un marquage social qui est plus ou moins intégré. Service existentiel, donc on va dans un parc aussi pour vivre ensemble, c'est-à-dire que l'idée c'est, on aime bien avoir un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire que les familles vont vouloir rencontrer des familles, des jeunes, d'autres jeunes, etc. Donc il faut absolument qu'on ait une mixité sociale dans les parcs. Et ce sentiment de vivre ensemble est important. Une sérénité, là aussi, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on va dans un parc pour avoir le calme, la paix, la tranquillité. Alors, là aussi, constater que dans les attentes du public, et pour avoir aussi fait quelques études, le calme est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on va dans un parc pour ne pas entendre le bruit de la ville, les voitures, les souffleuses, la tondeuse, etc., des services techniques. Donc, le calme est très important et se pose un problème d'ailleurs dans les villes de travail autour de ces zones de calme dans les parcs qui n'a pas fait beaucoup. Les villes ont peu fait d'efforts. Il existe une directive européenne sur les zones calmes et je pense que les parcs ou les squares doivent bénéficier de ces zones de calme. Donc, ça veut dire qu'il y a des aménagements qui soient faits, y compris des écrans acoustiques. Alors, la plupart du temps, je ne sais pas sur quand j'ai vu qu'il y avait des parcs à proximité d'un boulevard sur le plan que je ne connais pas, mais je ne sais pas, une ceinture verte, voilà, je ne sais pas, j'y suis pas allé, je ne sais pas s'il y a des écrans, si à la limite c'est des zones, s'il y a du bruit ou pas. Donc c'est souvent un problème, c'est-à-dire qu'on a une fréquentation qui baisse si notamment on a du bruit. Hein. Ça j'ai constaté. On a fait quelques études acoustiques dans les parcs sur l'agglomération lyonnaise, de regarder par exemple, on a fait des mesures acoustiques sur le parc de la Fessine par exemple, et on a constaté que les personnes se mettent, par exemple pour pique-niquer, dans les zones les plus calmes, hein, donc inférieures à 60 décibels. Donc on a des zones dans les parcs qui sont pratiquées en fonction du calme en particulier. Et puis on veut aussi une inspiration, c'est-à-dire que bon, certains viennent pour faire des photos, des peintures, etc. Donc on a aussi derrière le jeu de l'inspiration entre la nature, par exemple le spectacle de la nature, des fleurs, etc., qui sont aussi des éléments apportés par certains. Services ludiques, alors dans les parcs, la demande aussi, elle est à avoir des services ludiques, alors notamment avec des choses qui apparaissent, qui sont peut-être nouveaux par rapport à ce qu'on a dans d'autres parcs. En particulier, quelque chose qui est peut-être nouveau, on veut aller dans les parcs, on va dans les parcs, on se donne rendez-vous. Par exemple, j'ai vu à Paris des pratiques de festives, on se donne rendez-vous à plusieurs sorties de bureau et on va faire un pique-nique. Hein, un pique-nique le soir. Et la demande, elle est notamment avoir des tables de pique-nique, c'est-à-dire des grandes tables de pique-nique avec des poubelles, des lieux, peut-être aussi certains constatés sur Lyon, dans certains nombres de parcs, pouvoir faire des barbecues, par exemple. Hein. Donc, des pratiques qui sont un petit peu à l'opposé de ce qu'on a l'habitude dans les parcs haussmanniens, où il n'y a pas de table de pique-nique, il n'y a rien du tout. Alors, il y a quelques villes, j'ai vu, qui commencent, mais c'est délicat parce qu'il y a des difficultés à faire accepter par les services des parcs et espaces verts que les parcs soient des lieux de pique-nique. Oh, ça nous pose des problèmes, il faudra enlever les poubelles, il faut mettre des tables, elles vont être taguées. Enfin bon, je vous passe le discours. Mais c'est quand même quelque chose qui est nouveau, qui est à mon avis important, auquel il faudra bien répondre. Ensuite, derrière aussi, pouvoir pratiquer des activités de jeu. Alors, du coup, se posent des problèmes. Certains nous disent, oh, ben, nous, on aimerait bien, comme dans certains pays, avoir des jeux en plein air, par exemple, je sais pas, des jeux de dames, des choses. Voilà, on a une demande sur des jeux qui n'apparaissent pas. Certains pays, je pense notamment en Hongrie, il y a des jeux d'échecs, il y a des choses qu'on trouve dans les pays aussi du Maghreb. Il y a peut-être des choses à inventer qui sont peut-être à développer dans un certain nombre de parcs. C'est une attente, une demande, avec aussi quelque chose qui est nouveau. La plupart des visiteurs, par rapport à ces services ludiques, veulent des sensations dans les parcs, c'est-à-dire notamment avoir des fleurs qui sentent bon. Ils en ont marre des choses qui sentent rien du tout. Des parfums, les gens veulent des parfums, ils veulent pouvoir écouter le chant des oiseaux à l'intérieur. Donc certains, par exemple, je pense à Gerland, ont démarré par exemple des systèmes vocaux qui étaient développés, donc des chants d'oiseaux. Lorsque vous passez devant, vous avez des chants d'oiseaux qui vont se développer. Donc il y a des systèmes assez sophistiqués, vous voyez, par exemple, pas très naturels. Il y a des attentes. Les gens veulent pouvoir fouler les feuilles. Alors certains les ramassent moins. Certaines villes laissent par exemple les feuilles mortes. Donc il y a des travaux qui sont faits. Notamment, en particulier, les gens veulent pouvoir, en automne, laisser des gros tas de feuilles et puis que ça déborde et qu'on puisse les fouler. Alors, la ville de Paris a démarré, par exemple, au parc, au Jardin des Plantes. Donc, on laisse les feuilles. On en laisse un peu, pas trop, parce que ça devient glissant. Après, il y a des plaintes des grands-mères qui se cassent le col de fémur. Donc, il y a des choses qui sont contradictoires, mais bon, vous voyez, c'est... Bon. Donc, l'idée, c'est de passer un moment agréable, de pouvoir se divertir, et puis surtout, nous disent « Ah, moi, je vais au parc, je vais oublier mes soucis. Moi, j'y vais, en famille, ça me fait du bien, je me ressource, je vais oublier tous mes soucis. » Voilà, c'est ça, l'idée, derrière. Alors, les services, bon, les jeunes sont plutôt vers les services publics, etc. Bon, je passe. Les motifs de non-fréquentation. Vous avez à peu près, sur Lyon, donc on a vu 56%, vous avez les motifs de non-fréquentation. Alors, les motifs de non-fréquentation, notamment les squares, eh bien, la première, ici, on est en zone 2, c'est les zones les plus denses, c'est-à-dire le centre de ville de Lyon, de Villeurbanne ou de Caluire. Dans les autres raisons, c'est surtout, un, l'éloignement, c'est-à-dire que plus un square est loin, moins on y va. Donc, si j'ai pas de square à proximité, j'y vais pas. Dans les autres raisons aussi, on a des personnes âgées, en général, qui ne sont pas du tout intéressées donc, par ce type. On a à peu près 35% de personnes qui, finalement, n'y vont jamais dans les squares, parce que aussi, il y a en général trop de monde, c'est trop loin de chez trop de monde, ça ne les intéresse pas, c'est-à-dire ce type d'espace ne les intéresse pas, n'ont pas de temps, ne correspondent pas, ou au problème d'insécurité, trop de monde. Voilà à peu près comment ici, pour les parcs... Pareil, trop loin, c'est trop loin, 18%, etc. Donc, avec aussi des problèmes de sécurité, c'est-à-dire que certain nombre de personnes ne vont pas dans tel square pour des motifs de sécurité, parce qu'ils ont peur de se faire agresser, par exemple. Pour les motifs par rapport aux non-fréquentations dans les espaces autres, alors on a à peu près 35%, là aussi, de non-partants, c'est-à-dire qu'en France, les enquêtes du ministère du Tourisme montrent qu'en moyenne, 35% des habitants donc en milieu urbain ou dans des petits villages, finalement, ne sortent pas de chez eux. Et dans ces 35%, on a plutôt alors des familles ou des personnes qui ont des revenus modestes et qui ne peuvent pas notamment se payer une nuitée ou qui n'ont pas de voiture, par exemple, pour aller ou qui ne veulent pas prendre un billet de train, etc. Donc, à peu près 35% de personnes qui ne sortent pas de leur domicile pour aller notamment se balader le week-end dans les espaces naturels ou ruraux. Bon, la segmentation, là aussi, les parcs, vous voyez que les parcs sont très demandés suivant l'âge. Donc, là aussi, j'ai été surpris, c'est-à-dire que les 18-24 ans sont très demandeurs de parcs. Alors, là aussi, j'ai surpris parce que dans les enquêtes, souvent, dans les enquêtes des années 70-80, on constatait où certains sociologues prétendent que les adolescents ou les jeunes ne vont pas dans les parcs. Or, en fait, les études que nous avons menées, finalement, on a une attente et les jeunes vont effectivement dans les parcs. Avec, bon, quelque chose qui descend, les squares, donc une pratique surtout 25-34 ans ou 35-49, et c'est plutôt des actifs, donc des couples, ménages avec deux enfants, et on a plutôt donc une fréquentation importante, notamment dans les tissus denses de centres urbains. Autre point, puisqu'on avait demandé dans les 34 questions, c'est posé un certain nombre par rapport aux revenus, et puis aussi, c'est quelque chose qui m'intéressait de savoir, est-ce que finalement le type d'habitat influe ou pas sur la fréquentation ? Donc on a posé des questions par rapport aux personnes qui habitent en immeuble, en maison individuelle isolée, en maison individuelle groupée. Alors là aussi, ça m'a assez surpris. On constate que finalement, lorsque vous êtes en maison individuelle groupée, c'est-à-dire une maison en bande, une maison de village par exemple, dans les communes de l'agglomération lyonnaise, on a plutôt une fréquentation de l'ordre de 5% supplémentaire, par exemple pour les espaces naturels et ruraux, mais assez peu pour des fréquentations en square. Donc le type, alors bon, j'ai pas de déterminant, je sais pas trop. Maison individuelle isolée. Alors une maison individuelle isolée, c'est une maison individuelle dans laquelle vous avez la possibilité de faire le tour de votre maison à pied sans rencontrer une autre villa à proximité. C'est-à-dire que vous avez des espaces verts qui délimitent. Alors là aussi. Ça, on avait constaté dans les enquêtes, on a plutôt une attente, non pas sur des parcs, mais plutôt sur les espaces naturels et ruraux. C'est-à-dire le fait d'avoir un jardin vous satisfait, en gros, la semaine, j'allais dire, et puis le week-end, vous n'allez pas plutôt chercher dans les parcs éventuellement, mais vous allez plutôt dans les espaces naturels et ruraux. Par contre, lorsque vous êtes en immeuble, donc vous habitez dans l'agglomération à Lyon ou à Villeurbanne, eh bien, vous avez une pratique... pratiquement de tous les espaces, quels qu'ils soient. Bon, sur les espaces verts, quelque chose qui n'est pas, pas surprenant, quand on leur demande le nombre d'espaces est-il suffisant dans l'agglomération lyonnaise, en zone 1, on nous répond, zone 1, c'est la zone dense, ben non, à 62%. Lorsque vous êtes en quartier pavillonnaire, la réponse est un petit peu plus faible, hein. Donc, en fait, la demande d'espaces verts, elle est vraiment liée, ou la demande de nature en ville, elle est vraiment liée dans les zones urbaines denses, hein. Là aussi, lorsque vous êtes en immeuble, elle est effectivement très forte. Les attentes, là aussi, on a posé une question. Et si on vous proposait, par rapport à... C'était tout de suite après la question, est-ce que vous manquez d'espace vert? On a voulu voir comment le public, c'est des habitants en matière d'espace vert. Est-ce que vous souhaitez plutôt un square de proximité? On leur a demandé de trancher, hein, ou faire des réponses plusieurs. Un square de proximité, un parc urbain entretenu, un parc laissé à l'état naturel ou un grand parc d'attractions style Disney, enfin en gros, les gens... Et on voit très nettement que, en fait, ce qui apparaît, toute classe d'âge confondue, c'est quand même le square de proximité qui est l'espace le plus demandé et le plus attendu en milieu urbain, avec derrière donc le parc entretenu, et puis assez faible, donc ici en bleu, le grand parc d'attractions. Alors le grand parc d'attractions séduit plus les 18-24 ans, mais pratiquement pas les 64 ans. Hein. Avec là aussi, 64 ans, les personnes, donc les seniors, plutôt intéressés par le square de proximité. Et quand on fait les enquêtes et qu'on regarde, là aussi, c'est bon, des choses étonnantes, on fait des enquêtes square de proximité, finalement on constate que les seniors, certes, pratiquent les squares, mais pas autant que ça, et pas autant qu'ils le disent. Hein. Donc, des choses surprenantes. Donc, le square de proximité, oui, peut-être auprès de mon logement pour avoir des vues, mais finalement, une pratique assez faible. Voilà, donc, la conclusion. Alors, la conclusion, elle est relativement simple. Les enquêtes montrent que finalement, la demande, elle est surtout dans des squares de proximité, et notamment dans un rayon de 500 mètres. C'est-à-dire que les villes ont tout intérêt, pour répondre à cette attente, de créer plus de squares de proximité, et si possible à 500 mètres, c'est-à-dire cette histoire de 500 mètres, c'est le budget temps de déplacement de 10 minutes. Ensuite, dans les espaces, c'est ouvrir de nouveaux parcs dans les communes déficitaires, donc c'est une demande qui est forte, et plutôt, là aussi, c'est plutôt des parcs paysagers à l'anglaise, et les parcs à la française séduisent moins le public de citadins, hein, c'est-à-dire que les espaces courbes, là aussi on a des enquêtes sur une ville qui a deux parcs, un à l'anglaise et un à la française en région Île-de-France, et on constate que le parc à l'anglaise est nettement plus aimé, plus pratiqué qu'un jardin à la française, dans le style notamment en week-end par exemple. Là aussi un point important, on a constaté que finalement la promenade c'était la première pratique des citadins donc en milieu urbain. Et je pense qu'il y a une forte attente, notamment d'avoir un moyage de voies vertes, c'est-à-dire d'avenues promenades, de pistes cyclables ou de chemins de halage. C'est-à-dire que l'idée, c'est de retrouver ce qui a été développé aux États-Unis par Frédéric Homestead, c'est-à-dire des parkways ou des riverways, c'est-à-dire des chemins le long de cours d'eau ou entre parcs pour pouvoir aller d'un parc à l'autre sans passer par de la voirie urbaine. Classique, et l'idée c'est d'avoir des contre-allées avec des choses qui soient relativement douces, et l'attente est très forte là-dessus. Donc des espaces verts plutôt linéaires, et puis là aussi, très forte attente, des espaces verts sécurisés. Et dans les espaces verts sécurisés, une chose qui revient souvent, c'est le couple calme et propre. La plupart des habitants souhaitent que les espaces verts, donc les squares, les parcs, soient des lieux calmes, c'est-à-dire dépourvus de bruit. Il ne faut pas qu'on entende la ville. Si possible aussi qu'on n'ait pas les attributs de la ville, d'ailleurs, si possible, pas de béton, pas de... L'idéal, c'est qu'on puisse ne pas aussi avoir une vue sur la ville. Hein. Et puis propre, alors là, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que tous les lieux qui sont avec des canettes de bière, des papiers gras, etc., donnent un sentiment d'insécurité. Donc, vous avez un parc bruyant, vous avez un parc souillé, etc., donc c'est plutôt des lieux insécures. Et à ce moment-là, donc, on a une fréquentation qui est un petit peu plus faible, qui ne répond pas aux attentes. Donc on veut de la nature, mais calme et propre. Voilà.